Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Le Coq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Plus de fêtes étudiantes, plus de soirées dansantes, ni même de sorties scolaires. Les préfectures des Bouches-du-Rhône et de Gironde ont pris une série d'interdictions pour lutter contre la propagation de Covid-19. Nous avons demandé aux jeunes potentiels porteurs de ce virus ce qu'ils en pensaient.
Plus de 900 postes seront supprimés chez Alinéa. Le groupe Mullier reprend sa propre entreprise et propose en échange des reclassements. Nous entendrons les arguments de la direction et des salariés.
Dans cette édition encore, l'intérêt des Émirats dans l'accord de paix que le pays doit signé aujourd'hui avec Israël. Accord historique dans le Golfe.
Et puis nous irons au Japon où débute le procès d'un ancien assistant de Carlos Ghosn.
Il est accusé effectivement d'avoir aidé l'ancien patron de s'enrichir. À l'ouverture de ce procès, il a plaidé non coupable. Mais d'abord, ce nouveau spot de prévention contre le Covid-19 diffusé depuis ce week-end à la télévision. Une vidéo choc choisie par le gouvernement français qui se termine par l'image d'une femme intubée sur un lit d'hôpital et qui responsabilise ou culpabilise, c'est selon. Antoine Marette décrypte pour nous cette nouvelle campagne du ministère de la Santé.
Cela commence par une embrassade dans un bureau entre collègues, une étreinte entre deux adolescents à la sortie d'un lycée, une soirée d'anniversaire, des gestes banals du quotidien d'avant. Mais une musique lancinante laisse présager du pire et effectivement le spot se termine à l'hôpital. La grand-mère qui fêtait son anniversaire quelques jours plus tôt est intubée, inanimée et la conclusion tombe. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Une vidéo à rebrousse-poil de celle diffusée auparavant. On y voyait un jeune garçon s'amusant dans la cuisine avec sa grand-mère, tous les deux masqués après le confinement. Pour le chercheur au Cevipof Bruno Cotres, ce changement de ton est coutumier des campagnes de prévention en matière de santé.
On tente différents registres. Il y a toujours le registre de la persuasion par une communication plus soft. Et puis il y a toujours un moment donné où on vient sur un registre de la dramatisation et de la responsabilisation et potentiellement la culpabilisation des individus.
Changer de ton, c'est aussi changer de cible. Au mois de mai, le gouvernement s'adressait d'abord aux personnes âgées qui craignaient le déconfinement. Aujourd'hui, c'est aux jeunes plus insouciants qu'il souhaite délivrer son message. Jean-Luc Manot est conseiller en communication politique.
Quand on s'adresse à un public plus jeune, c'est volontairement plus rude. Aujourd'hui, ce que regarde la population la plus jeune sur les réseaux sociaux, ce sont des images d'extrême violence. Et donc, pour arriver à toucher ce public, il faut également être dans une forme de violence.
Après avoir rassuré les seniors, le gouvernement cherche donc à sensibiliser les plus jeunes avec cette nouvelle campagne choc.
Car ce sont effectivement les jeunes qui transmettent davantage le virus en ce moment. En cette rentrée universitaire, 43 étudiants à Rennes sont positifs au Covid-19 après une fête. La préfecture d'Ille-et-Vilaine oblige donc les bars de la ville à fermer à 23h pour les 15 prochains jours à partir de demain. En Gironde et dans les Bouches-du-Rhône, deux départements qui inquiètent, l'alcool est également interdit après 20h sur la voie publique. Il est interdit aussi de se rassembler à plus de 10 dans tous les jardins, les parcs et sur les quais. Mais pas sûr que cela suffise à convaincre certains jeunes. C'est ce qu'a constaté hier soir notre reporter à Marseille, Mathilde Vinceneux.
Les terrasses de cette place du centre-ville sont bondées, on trinque et parfois on finit sur la plage, confirme Margot en première année de fac. Et ce n'est pas toujours en petit comité.
Il y a eu des grosses fêtes, il y a eu quoi ? Il y a eu la fin du doctorat de médecine, je crois. On était peut-être 200-300, quoi. Ouais, sur le Prado, là.
Terminé, hein, maintenant, ces grandes soirées étudiantes. Mais ça ne va pas changer grand-chose pour ces deux amis.
C'est un truc en moins, mais on va l'attraper ailleurs, quoi.
Toutes les soirées qui se faisaient chez les gens, elles vont continuer de se faire chez les gens. L'incitation à ne pas se rassembler, faire des soirées chez soi, ça va pas marcher, je pense.
Continuer la fête en appartement, ça ne veut pas dire être irresponsable, corrige Joanne.
C'est juste qu'on, en fait, on est jeune, du coup, on est en train de vivre notre jeunesse. On se sent un peu frustré et on reste quand même plein de bonne volonté pour faire les gestes barrières. On n'est pas juste des petits cons, en fait.
Tout dépend, en fait, de la situation, explique Juliette.
J'ai vu mes grands-parents, ouais, cet été. Et on a gardé nos distances. Je pourrais pas me lâcher des fleurs en me disant que j'ai fait gaffe à 100%. Mais sur certains trucs, ouais, j'essaie de faire gaffe.
En famille, avec nos aînés, finalement, on fait souvent plus attention. Mais entre amis, malgré les interdictions, ça reste une autre histoire.
Et c'est justement les rassemblements familiaux que certains départements veulent éviter. Pas plus de 10, par exemple, en Gironde. La Gironde qui abaisse aussi la jauge des salles de spectacle et des stades. 1000 personnes au lieu de 5000. Idem pour les Bouches-du-Rhône. Et à chaque fois, les visites dans les EHPAD sont réduites. Les Français, entre crainte, défiance et perte de repères, voici le thème du billet politique du jour. Une chronique de Stéphane Robert que nous retrouverons après cette édition. Une naturalisation accélérée pour les étrangers en première ligne contre le SARS-CoV-2. Marlène Schiappa donne instruction au préfet de faciliter leur naturalisation française. Elle est, je vous le rappelle, ministre déléguée à la citoyenneté. Alinéa repris par ses propres actionnaires. Le groupe Mulier a profité d'une ordonnance publiée pendant l'état d'urgence sanitaire pour racheter son entreprise en dépôt de bilan. Le tribunal de commerce de Marseille l'a validé hier. Ce rachat inclut la fermeture de 15 magasins sur 26 chez le spécialiste de l'amendement et 992 suppressions de postes. Mais le dirigeant du groupe, Alexis Mulier, fait déjà des propositions de reclassement aux salariés. Il s'en explique.
J'ai vraiment consacré beaucoup d'énergie et accordé beaucoup d'importance à ce sujet du reclassement, au point aujourd'hui de pouvoir présenter près de 900 postes de reclassement interne au sein de l'environnement Auchan, puisque Alinéa était rattaché juridiquement à Auchan. Et au-delà de l'écosystème Auchan, c'est près de 1500 offres complémentaires qui viennent s'ajouter aux 900 en reclassement interne.
Voilà pour les chiffres donnés par la direction, mais l'avocate des salariés, Maître Campagnolo, note, elle, un souci sur le fond de ces postes proposés.
Les reclassements internes, ça se mesure pas au poids. Ça se mesure à la qualité et à l'adéquation par rapport au profil des salariés Alinéa. Le jour du tribunal de commerce, les élus ont rappelé que, à date, les postes qui étaient identifiés au sein de Auchan, pour la majeure partie, ne correspondaient pas du tout aux qualifications et au profil des salariés Alinéa. Donc, on peut annoncer des chiffres. Encore faut-il qu'il y ait une adéquation avec les salariés d'Alinéa. Et c'est loin d'être le cas.
Un dossier monté par Anne-Laure Jumet pour France Culture à propos donc de ce nouveau plan social qui découle officiellement de la crise sanitaire et économique. Nous avons appris hier aussi l'annulation de la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, était le principal rendez-vous annuel du monde de l'art à Paris. Prochaine édition prévue en octobre 2021. Au procès des attentats de janvier 2015, la Cour s'est penchée hier sur l'assassinat du policier Ahmed Merabet, abattu à bout portant par les terroristes qui sortaient de la rédaction de Charlie Hebdo. Les sœurs de ce policier et sa compagne sont venues dire hier à la cour toute la souffrance qui était la leur aujourd'hui encore. Et ses collègues en gardent aussi des traces, Florence Turm.
Ahmed Merabet a trouvé la mort ce jour-là et la vidéo de son exécution postée sur Facebook puis reprise par les chaînes de télévision hante encore ses sœurs et toute leur famille. Mais aucun des policiers, qu'ils soient hommes ou femmes, novices ou aguerris, n'est sorti indemne de l'affrontement avec les terroristes. On croise cette foutue voiture C3, raconte le conducteur de la patrouille qui va se retrouver face aux frères Kouachi. Il commence à faire feu et c'est une pluie de verre dans le véhicule. On sort, on trace, on se met à couvert. Après, je me suis assis, j'ai fumé 5 cyclopes d'affilée. On a beau être policier, on ne maîtrise plus rien. Lui a refusé les cachets, mais l'automédication dans les bars, ça fait plus de dégâts au fond, admet-il aujourd'hui. Avec ce sentiment qu'on ne peut que subir, ajoute l'un de ses collègues, à aucun moment la possibilité de riposter face à des armes de guerre. Tous reconnaissent leur désarroi, sans phare ni détour, avec une certaine humilité, pour beaucoup une mutation nécessaire et la culpabilité du survivant. Moi aussi, j'ai un regret de ne pas avoir pu stopper la progression des frères Kouachi, déclare le chef de bord de la BAC. Je suis vraiment désolée pour la famille d'Ahmed Merabet, mais aussi pour les victimes de la rédaction de Charlie. La semaine dernière, il a entendu les témoignages des survivants. Il secoue la tête. C'est pas normal qu'il se soit passé ça juste pour des dessins. Et en les écoutant, je me rends compte qu'on a les mêmes principes, nous policiers et eux de Charlie. Ils prônent la liberté. Nous, on est là pour la défendre. En fait, conclut-il, on a les mêmes valeurs.
Florence Turm, dont vous pouvez retrouver les comptes rendus d'audience sur franceculture.fr. Lui a été arrêté parce que journaliste. L'Algérien Khaled Drareni connaîtra aujourd'hui le verdict dans son procès en appel. Il est accusé d'incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Israël doit sceller aujourd'hui son entente avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn.
Oui, un accord signé en fin d'après-midi à la Maison Blanche sur terrain américain. américains sous l'égide des États-Unis. Après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994, les Émirats sont donc le troisième pays arabe à officialiser leurs relations avec Israël, Christian Chesneau.
C'était une opportunité à saisir pour nous, car la politique de la chaise vide, dont le conflit israélo-arabe n'a rien produit, explique Anouar Gargache, le numéro 2 de la diplomatie émirienne. Avec l'État hébreu, la relation bilatérale commence avec une page blanche, ou presque, car le Mossad et les services de renseignement d'Abu Dhabi coopèrent depuis bien longtemps. Les Émirats arabes unis entendent bien récolter les fruits économiques de leur normalisation avec Israël, ajoute Anouar Gargache.
Je peux voir les bénéfices dans le tourisme, dans l'agriculture, les technologies, la santé. Vous savez, nous sommes ouverts. Nous ne voyons pas cela comme une paix chaleureuse, mais comme l'établissement de relations bilatérales normales entre deux pays de la région. Et je dirais que depuis l'annonce de l'accord, nous avons été inondés d'appels d'hommes d'affaires israéliens, de journalistes, de politiciens, de diplomates, car pour eux, c'est très excitant.
L'annonce de cet accord de paix entre Israël et les Émirats a brisé une barrière politique et psychologique dans les pétromonarchies du Golfe Persique. Bahreïn a emboîté le pas d'Abu Dhabi. L'Arabie Saoudite, elle, ne semble pas encore prête à suivre le mouvement, même si la presse saoudienne s'est montrée très positive vis-à-vis de la décision des Émirats.
Que se passe-t-il maintenant au Mali? Après la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait donné au pays jusqu'à aujourd'hui pour désigner un président et un premier ministre. Mais après 3 jours de concertation nationale, les militaires maliens n'ont pas encore tranché, Valérie Crovin.
Une délégation de militaires putschistes doit rencontrer les chefs d'État de la CDAO à Accra, au Ghana. Il doit faire des propositions de sortie de crise. Car à l'heure actuelle, seule la durée de la transition a été fixée à 18 mois par la charte adoptée le week-end dernier. Le document ne précise pas en revanche qui doit conduire la transition. C'est un comité formé par la junte qui désignera un président civil ou militaire, dit la charte. Or, la CDAO a été claire. Elle veut une transition dirigée par des civils. Une position partagée par le M5-RFP qui a été à la pointe de la contestation contre l'ancien président malien. Le mouvement, composé d'une coalition d'opposants, de chefs religieux et de membres de la société civile, a rejeté la charte de transition. Le M5-RFP y voit la volonté du Comité pour le salut du peuple, créé dans la foulée du putsch, de s'accaparer le pouvoir et va jusqu'à parler de pratiques antidémocratiques. La semaine dernière, le président du comité stratégique du M5 n'avait pas exclu de redescendre dans la rue si aucun accord n'était trouvé à l'issue des 3 jours de concertation. Si la rupture n'est pas encore complètement consommée avec la junte, le M5 a néanmoins demandé aux militaires de revoir leur copie.
Valérie Crova pour France Culture. Le président américain était en Californie hier alors que des dizaines de feux dévastent toujours la côte depuis 10 jours. Le climat finira par se refroidir selon Donald Trump, qui ne pense pas que la science sache quoi que ce soit sur le réchauffement climatique. Son rival à la présidentielle, Joe Biden, promet lui de réintégrer les accords de Paris s'il est élu en novembre prochain. Envolons-nous à présent pour le Japon, où d'anciens collaborateurs de Carlos Ghosn font face à la justice aujourd'hui. Ils sont soupçonnés d'avoir conspiré pour minimiser les revenus de l'ancien président de l'Alliance, Renault Nissan, plus de 70 millions d'euros. Carlos Ghosn, lui, je vous le rappelle, a fui au Liban à la fin du mois de décembre l'année dernière. Yann Rousseau, vous suivez ce procès pour France Culture.
La première audience de ce procès, qui va durer jusqu'à l'été prochain, vient tout juste de s'ouvrir au tribunal de Tokyo. En l'absence de Carlos Ghosn, il n'y a que 2 accusés. D'un côté, le groupe Nissan, qui est jugé en tant qu'entité morale et qui reconnaît la plupart des faits. L'entreprise assure que des salaires supplémentaires avaient bien été promis à l'ancien patron, mais qu'ils n'ont dans les faits jamais été versés. Il a été arrêté avant. Aux côtés des représentants du groupe, il y a Greg Kelly. C'est un ancien juriste américain de 64 ans, qui a longtemps dirigé le département légal du constructeur. Il avait été arrêté en novembre 2018, le même jour que Carlos Ghosn. Il a aussi fait de la prison ici, et il vit depuis 2019 en liberté sous caution dans un petit appartement de la ville. Et lui, il affirme qu'il est totalement innocent et qu'il n'a jamais programmé le versement de salaire différé pour Carlos Ghosn. C'est un ancien avocat et il promet de se battre bec et ongle contre les procureurs japonais, mais ses chances d'acquittement sont assez faibles. La justice nippone condamne à plus de 90% les accusés qui se présentent devant la cour en osant plaider non coupable. Il est donc très amer, il explique qu'il a de toute façon déjà beaucoup perdu. Quel que soit le verdict, la procédure aura pris 4 ans de sa vie. Comme il n'a pas le droit de sortir du Japon, il ne voit que très rarement ses enfants qui vivent aux États-Unis. Il n'a même jamais rencontré son dernier petit-fils. Son épouse a bien réussi à le rejoindre ici, mais elle vit avec un visa d'étudiante. Il faut absolument qu'elle ait de bonnes notes en japonais, sinon elle serait renvoyée du pays.
Merci Yann Rousseau pour ces précisions importantes ce matin à Tokyo pour France Culture. Après des records hier pour un mois de septembre, la météo ne bouge pas d'un Celsius ou presque. Prévoyez ce matin 17 degrés à Brest, 20 à Lille, Paris, Dijon et Lyon, 22 à Bordeaux, 23 à Marseille, 26 à 36 degrés cet après-midi sous quelques ondées, quelques nuages qui arrivent par l'ouest.